9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Blondel.
Bonjour Patrick Besson.
Bonjour.
Vous êtes romancier, essayiste, prolixe, très prolixe. Vous êtes peut-être le journaliste qui a écrit dans le plus de journaux en France, Le Figaro, l'UMA, VSD, Nice Matin. Marianne, voici, lui, Paris Match, Le Figaro littéraire, Le Quotidien de Paris, L'Idiot international, L'Obs Glamour. Et toujours dans Le Point chaque semaine, je vais citer le magazine Playboy qui vous encense, sa page du Point, et pour certains, le meilleur du magazine. Alors je l'ai dit, prolixe, voici votre 81e livre. C'est un essai, ça s'appelle Niceville, chez Flammarion. C'est quoi l'idée du livre? Parce que c'est pas un roman. C'est pas non plus tout à fait un essai, c'est un peu un livre de souvenirs.
Oui, c'est une promenade, c'est un guide aussi. Il y a des adresses de restaurants, des adresses d'hôtels.
Il y a même les numéros de téléphone si on veut réserver. Oui, c'était la première fois que je voyais ça dans un bouquin.
Ouais, je dirais que c'est un galop libre autour d'une ville à laquelle je suis attaché depuis 30 ans et où je pensais me rendre ces derniers jours, mais le maire lui-même vient de me déconseiller de le faire. Donc c'est la première fois qu'un maire dit aux gens de ne pas venir dans sa ville quand c'est une ville au bord de la mer.
Il vient de vous le conseiller personnellement? Vous connaissez Christian Estrosi
personnellement? Oui, je le connais, mais il ne m'a pas téléphoné. Il a téléphoné à la France entière.
Ah d'accord, parce que hasard de l'actualité, il faut le dire, Nice est au cœur de l'actualité avec un reconfinement possible. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Ben, c'est toujours difficile de demander aux gens de ne pas sortir, de ne pas voir leurs amis, de ne pas aller au cinéma, de ne pas aller au théâtre, de ne pas sortir de chez eux. Je veux dire, c'est prendre une responsabilité énorme. Hein, c'est presque un rôle de policier, quoi, de juge, de gardien de prison. Donc ça, c'est le côté hautement désagréable de l'affaire. Évidemment, vu le nombre de décès qu'il y a sur Nice, et surtout quand on a des amis soi-même qui vivent à Nice, et j'en ai beaucoup, on a envie qu'ils se protègent, évidemment. Mais quelle est la protection qui protège le plus?
J'en sais rien, je ne ferai pas de commentaires. C'est une vision très particulière que vous avez de Nice. En 30 ans, dites-vous par exemple, je n'ai jamais assisté à un seul carnaval de Nice. Et dans une interview donnée pour Playboy, vous avez dit cette très jolie phrase. Je crois avoir voulu faire un album photo avec des mots parce que je ne prends jamais de photos.
Oui, j'ai fait ce livre. Bon, d'abord, on écrit toujours pour soi-même, en fait, même les gens qui prétendent écrire pour les autres. J'ai écrit ce livre pour pouvoir le lire, le relire, parce que en effet, je prends pas de photos et ce sont des photographies avec des mots. Voilà. Et chaque paragraphe, bon, parce que c'est aussi un livre qui est constitué de petites notations, ouais. Chaque paragraphe est une espèce de photographie, je dirais, verbale.
Je montre à la caméra sur Europe1.fr comment le livre est composé. Ce sont des petites étoiles, des tout courts chapitres, parfois une seule phrase. Ouais,
j'ai voulu une liberté entière dans la composition et aller dans tous les sens, y compris celui de confidence, mais aussi celui de commentaire sur l'actualité, sur l'histoire de Nice, sur son histoire littéraire surtout, parce que c'est la ville, après Paris, de mon point de vue, la ville française qui a été traversée par le plus d'auteurs et des auteurs très considérables.
On croise Romain Gary, on croise Céline.
Ah oui, dans chaque rue de Nice, on marche sur un grand écrivain, j'allais dire. Martin Dugard, surtout, c'est celui qu'on oublie, mais il ne faut pas oublier que l'été 14 a été écrit presque entièrement à Nice et dans un enchantement total qui est très bien restitué dans sa correspondance avec André Gide.
Livre assez nostalgique, mais de la nostalgie heureuse, presque du soda à la portugaise. On a quand même l'impression que Nice était mieux avant. Vous racontez en 77 le Concorde se pose à Nice. Non, vous ne le racontez même pas. Vous faites juste la photo, vous dites en 77, le Concorde se pose à Nice, et là on a l'image, on se dit, ça fait complètement rêver. Et il y a une ode à la voiture assez gourmande, mais qui va plus loin que ça. Vous écrivez ceci: on se garait place Masséna en 1960, on se garait partout, alors que tout le monde avait une auto. Aujourd'hui, plus personne ne possède de voiture, et il est aussi impossible de se garer à Nice qu'à Paris. Explication: sous couvert de lutter pour la planète, on renoue avec une vieille tradition politique, la haine de la liberté.
Ben oui, cette haine de la voiture qui est, je dirais maintenant, diffusée dans beaucoup de milieux.
Ça, j'ai bien comprise.
La voiture, c'est quand même, bon, enfin, j'en parle d'autant plus légèrement que je conduis pas. Mais pour beaucoup de gens, et je regardais hier, je revoyais la série sur Françoise Sagan, elle incarne complètement la liberté que permettait l'automobile.
Mais vous pensez réellement, parce que j'en viens à votre conclusion, vous pensez réellement qu'il y a une haine de la liberté chez les politiques?
Je dirais que les politiques, ce qu'ils aiment, c'est qu'on vote pour eux. C'est pas spécialement qu'on soit libre de ne pas voter pour eux.
Mais alors pourquoi ils laissent pas les gens rouler en voiture?
Parce qu'il y a ce souci parfaitement justifié de la protection, comme on dit, de la planète. Mais l'automobile a eu pendant des années, des dizaines d'années, un caractère de liberté extraordinaire pour... Ça me fait penser à Simone de Beauvoir qui, dès qu'elle a eu l'âge de le faire, a passé son permis de conduire parce que c'était exactement pour elle dans la lignée de la libération de la femme, donc de l'homme.
C'est ce qu'on trouve dans ce livre de Patrick Besson. Comme souvent dans son œuvre, une petite chose devient un enjeu politique. On continue à en parler et puis on va en apprendre plus sur vous, peut-être même davantage que sur ce livre, parce que déjà, vous livrez beaucoup. C'est Hélène Manarino, Le portrait inattendu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Besson, Niceville, c'est son dernier ouvrage. Ça vient de sortir chez Flammarion et elle vient d'entrer dans ce studio. C'est Hélène Manarino que je suis contente de retrouver. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe, je suis contente de vous retrouver. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Patrick Besson. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors vous avez séché toute votre année scolaire de terminale pour écrire votre premier roman, Le Petit Mot d'Amour. Les commentaires sur vos bulletins étaient très clairs. Élève inconnu, absent. Ou encore, on ne connaît pas cet élève.
C'est
en
génial.
Espérant que vos professeurs nous écoutent ce matin, car ils vont en apprendre plus. Je vous propose finalement de raconter les mots, M-O-T-S, de votre vie. Vous qui aimez particulièrement le rangement, oui, le désordre vous agace, cela va avec votre exigence. Comme vous dites si bien, t'as une bosse entre les deux épaules, ça s'appelle une tête, tu devrais t'en servir. Les choses qui traînent, vous ne supportez pas. C'est d'ailleurs pour ça que quand vos enfants laissaient traîner des choses, vous disiez systématiquement « Eh oh, il n'y a pas de boniche ici ». Vos enfants que vous nommiez Oscardo et mon petit Toto. Alors...
La tête de Patrick Besson. Vous n'attendiez pas à celle-là.
Eh non.
Voilà. Normalement, c'est vous qui révélez des choses qu'on ne doit pas dire. Là, c'est Hélène.
Alors, gardons l'ordre. On va ouvrir les tiroirs des souvenirs en les refermant à chaque fois. Et on va commencer justement... dans l'ordre. Le tiroir de votre jeunesse, votre rêve, devenir écrivain, j'ai envie de dire, rêve exaucé. Vous ne supportiez pas le tennis, il n'y avait que la lecture qui vous intéressait. Besoin de liberté en permanence. En cours, vous étiez plutôt bon, mais quand vous l'aviez décidé. D'ailleurs, vous avez eu votre bac avec mention très bien en travaillant uniquement un mois avant. Après donc les études moyennes, vous avez fait 2 mois de chinois à la fac. Bref, tiroir jeunesse, études refermées. Passons maintenant à votre côté artiste. Rassembleur, oui. Lorsque vous étiez plus jeune, si je vous dis, c'est le blues interminable, il ne s'est jamais terminé. C'est le blues interminable, il ne se terminera jamais.
C'est quoi ? Vous avez fait une drôle de tête, c'est quoi ?
Oui, que moi je m'en souvienne, mais je ne savais pas où ça avait paru. Ça.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est un blues qu'on avait créé avec 2 copains musiciens et on le chantait de temps en temps. C'est la seule fois où j'ai fait de la variété, en dehors de mes livres.
Et oui, alors vous, en concert, parfois, il y avait des petites scènes, évidemment. Alors, le public était devant vous, comme vos clients, lorsque vous teniez le bar de la caserne pendant votre service militaire. Tout le monde vous aimait. Vous dites souvent, d'ailleurs, que vous avez rencontré là-bas que des gens plus intelligents que vous, à part les officiers. Alors, Patrick Besson,
ils avaient de meilleures notes au test que moi, toute ma chambrée. Oui, c'est un peu énervant.
Continuons sur cette lancée un peu festive. Il est temps à présent d'ouvrir la boîte à musique. Vos goûts musicaux, aujourd'hui, vous êtes capable d'écouter d'une traite les intégrales de Bach, Mozart, Chopin, mais vous êtes surtout un fidèle des chanteuses de R&B. Alors dans votre playlist, on a ça. Chaim, oui, alors qu'est-ce que ça fait ?
Oh, dis donc,
et oui,
j'imaginais pas en train d'écouter Chaim.
Et il y a aussi...
Oui, ça a été l'un de mes rares papiers refusés dans le point.
Et il y a aussi ça. Diams.
Ouais, du talent pur. Ouais.
Alors j'aurais pu ajouter aussi Sherif Alouna. Je précise que vous ne chantez pas trop et que vous ne dansez pas non plus. Voilà, c'était le petit interlude. Passons à présent à un tiroir plus difficile à ouvrir. Les choses qui vous agacent. WhatsApp, par exemple. Vous avez désinstallé l'application.
Non, je n'ai pas réussi à la réinstaller. C'est bien
différent. D'accord, pardon. Et de toute façon, mais vous détestez les nouvelles technologies. Le smartphone, pomme, pour vous, c'est le diable. Comme
non,
vous
mais
dites.
J'en ai un, mais j'ai le diable dans ma poche.
C'est ce que
grave,
vous dites, mais... voilà. Alors, vous n'aimez pas conduire aussi. Bon, Patrick Besson, après l'effort, le réconfort, ouvrons les placards de votre cuisine. Il y a toujours du saucisson dans le frigo. L'été, toujours des glaces au congèle. Vous ne cuisinez pas beaucoup, mais vous aimez l'oignon cru, les tomates aux oignons crus, les œufs au plat, les œufs en gelée, le chou farci serbe, le steak frites, le couscous, le kebab sans frites avec beaucoup d'oignons crus et avec une eau minérale en bouteille.
Bah, j'essaye, j'ai compris qui était la source.
Ouais. Alors, il y a une
c'est
chose.
Un importateur d'oignons crus.
Non, c'est mon fils.
Non, pas du tout. Il y a une chose à ne pas refermer, à ne jamais jamais oublier, ce sont vos souvenirs. Oui, en tant que papa, vous aimiez emmener vos enfants au parc en les portant sur vos épaules. Vous aimiez jouer à la boxe, leur apprendre les échecs, puis emmener notamment votre fils Paul au cinéma, au restaurant, dans les librairies, chacun dans son rayon pour trouver la pépite à lire. Ou encore regarder South Park à 10 ans avant de l'emmener manger dans un restaurant italien où les profs de fac aimaient emmener leurs élèves. Une journée mémorable, père-fils, que vous avez raconté dans votre livre Solderie. Paul, d'ailleurs, qui vous a fait un jour très peur quand, à l'âge de 15 ans, lors de vos vacances à Ibiza, il a débarqué avec un faux piercing dans l'oreille, avec toute sa bande de copains dans la boîte de nuit de l'hôtel.
Et oui, alors... Il rigole encore, Besson, de ça.
Le meilleur programme aujourd'hui, refaire le monde avec vos enfants en buvant du Sancerre rouge et des prunes en digestif. Patrick Besson, vous êtes un très très grand bosseur. Vous n'avez jamais voulu faire quoi que ce soit d'autre qu'écrire. Articles, romans, chroniques journalistiques, les petits mots M-A-U-X d'amour ont permis à vos mots M-O-T-S de devenir incontournables.
Merci beaucoup, Alain Manarino. Réaction, c'est touchant, non, de vous voir comme ça,
oui,
touché.
Oui, c'est des trucs que j'ai jamais écrits en plus. Alors, je ne sais pas où vous les avez trouvés, mais sûrement chez.
C'est le talent d'Hélène.
Diverses sources.
Mais quel effet ça fait de voir raconter sa vie comme ça?
Oui, c'est étrange. Ouais. On n'a pas l'impression d'avoir une vie, en fait. Quand on vit les jours les uns derrière les autres avec différentes activités, mais on n'a pas l'impression que ça forme un tout, que c'est cohérent, que c'est une histoire, en fait.
Non, vous voyez.
Et là, tout d'un coup, effectivement, là ou ailleurs, on trouve une histoire qui ressemble un peu à celle qu'on vit, mais qui n'est pas non plus complètement celle-là.
Je ne vous aurais jamais imaginé devant, en écoutant Chaim. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Non, mais il y avait la vidéo aussi qui aidait.
Ah, mais là, on n'a pas. On est à la radio, vous restez avec nous, Patrick Besson. Encore plein de choses à vous demander. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'écrivain, romancier, également auteur, même parfois pamphlétaire, Patrick Besson. Son nouvel ouvrage s'appelle Niceville. C'est pas un roman, c'est plutôt un livre de souvenirs, comme il le dit. C'est comme un livre photo. Ce sont des photographies écrites. Vous comptez vous relire?
Oui, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce livre, d'ailleurs, pour pouvoir de temps en temps le regarder comme on regarde un album photo.
Avec vos souvenirs, vous dites, parce qu'il y a beaucoup, vous vivez beaucoup à l'hôtel quand vous êtes à Nice.
Crois que j'ai fait tous les hôtels, comme une professionnelle, les hôtels de Nice.
Dans chaque hôtel, écrit Besson, me sens à la maison, dans chaque maison à l'hôtel. Et vous faites cette observation sur les grands hôtels. À partir de 4 étoiles, la salle de bain est un problème. Robinet carré, douche insolite, baignoire capricieuse. La télé est aussi difficile à allumer qu'à éteindre. Ils veulent épater le bourgeois. Je me suis toujours demandé ça.
C'est extrêmement compliqué d'arriver dans une chambre d'hôtel, surtout quand c'est un palace. Hein,
ouais.
Parce que là, carrément, il faut être bac plus 5 pour comprendre comment ça marche.
Il faut déjà avoir la chance d'être dans le palace, mais une fois qu'on est dedans, on se sent tout petit. Ils veulent nous humilier.
Ouais, et puis il y a des glaces partout. Alors souvent, les gens qui sont dans les palaces, c'est des vieux, quoi. C'est des gros. Alors ça leur rappelle sans arrêt la mauvaise qualité de leur apparence.
Vous dites ça pour vous?
Ouais, enfin pour les gens qui vont dans les palaces.
Non, parce que moi, j'avais rarement vu quelqu'un qui se dénigrait autant. Je me souviens d'une chronique dans Le Point. Vous décriviez votre embonpoint, votre gros bide en maillot à la piscine de la Mamounia, palace au Maroc, et votre poids, plus de 95 kilos. Je me dis, mais pourquoi il raconte ça, Patrick Besson?
Pourquoi vous racontez ça? J'ai changé en prison.
Elle l'a dit, Hélène Manarino, vous êtes capable d'écouter d'une traite les intégrales de Bach, Mozart, Chopin. Ça n'a rien à voir, mais j'aurais bien avoir votre avis là-dessus, parce qu'on va parler musique avec Lord d'Autriche.
Non, mais ce qu'il y a dans un de mes romans qui s'appelait Les Brabants, un des personnages disait que on pouvait pas écouter l'intégrale de Mozart sans mourir. Et il essayait cette formule sur son beau-père. Et en effet, aux trois quarts, le beau-père mourait. Lui laissant un confortable héritage.
Non mais là, c'est trop long. Ça dure combien de temps? Bonjour, Lord d'Autriche.
Bonjour.
L'intégrale Mozart, c'est combien d'heures?
Des dizaines d'heures.
Non, plus que des 10 heures. Des
centaines d'heures. Oui. Mais c'est vrai, le fait de mourir en écoutant ça, je suis complètement d'accord.
Parce que déjà, l'intégrale Johnny, c'est des dizaines d'heures. On va parler...
Non, on ne meurt pas à la fin.
Non. On va parler avec vous, Lord d'Autriche, d'une personnalité qui est en train de dynamiter le monde de la musique classique. C'est une chef d'orchestre du Venezuela qui voit sa carrière décoller depuis quelques semaines en France. Elle va diriger l'Orchestre de Lyon. Ce sera mercredi 24 février aux Victoires de la musique classique. Qui est-elle? D'où vient-elle?
Alors, elle s'appelle Glace Marcano. Elle a 24 ans et sa vie a été chamboulée au mois de septembre dernier quand elle est venue à Paris pour se présenter au premier concours de chef d'orchestre réservé aux femmes. En fait, elle vendait des fruits au Venezuela avec ses parents et deux jours plus tard, elle était à Paris. Elle vient d'une famille pauvre du Venezuela et elle n'avait pas d'argent pour payer le billet billets d'avion. Elle a voyagé à bord d'un vol humanitaire. Et la voilà, face à l'orchestre. Glass Marcano, en fait, quand vous la voyez, elle dirige comme un diable qui sort de sa boîte, avec une énergie folle. Et c'est son charisme qui a envoûté les musiciens lors de ce concours. Elle a reçu le prix spécial de l'orchestre. Voilà comment elle s'exprime devant les musiciens de l'orchestre à Paris. Son rêve devenait réalité.
La première fois était dans mon imagination. Et maintenant, est devenue une réalité.
Et c'est elle qui dirige ici l'orchestre dans La Force du Destin, l'opéra de Verdi.
Alors même dans le classique, elle n'a pas du tout un parcours classique, cette jeune femme. Comment a-t-elle voulu devenir chef d'orchestre et comment a-t-elle réussi ?
Alors elle a commencé la musique à 4 ans, chez elle, au Venezuela. Ses parents ne sont pas musiciens, elle était hyper active et on lui a fait faire de la musique pour la calmer justement, c'est ce qu'elle m'a raconté. Alors quand elle jouait du violon dans cet orchestre pour enfants, elle s'est très vite imaginée à la place du chef d'orchestre. C'est ce qu'elle m'a raconté. Une fois rentrée chez elle, elle imitait les gestes du chef d'orchestre. Elle ne parle ni anglais ni français pour l'instant, juste quelques mots qu'elle a répétés et qu'on a entendus ici en français. Quand je l'ai rencontrée, on a parlé espagnol et justement, comment faire en France pour communiquer avec les musiciens ? Écoutez sa réponse.
Je me suis dit comment je vais faire. Et puis j'étais comme au Venezuela, je me suis mise à chanter. Et j'ai commencé à chanter.
Furioso. Grandioso.
Et puis ça passe aussi par le regard. J'ai appris la musique avec El Sistema au Venezuela, qui prête gratuitement des instruments aux enfants défavorisés. Je n'ai pas une technique classique, mais c'est ça aussi la musique, transmettre une énergie.
Alors elle parle de El Sistema au Venezuela, qu'est-ce que c'est exactement Laure ?
C'est un programme d'éducation musicale très important dans le pays qui existe depuis une quarantaine d'années, financé par l'État. 1 million d'enfants aujourd'hui en bénéficient, issus de familles modestes, ils apprennent un instrument, ils jouent toutes les semaines dans un orchestre. Et justement pour les amener à la musique, l'approche est ludique, plus intuitive que dans un conservatoire classique. Alors en France, on a aussi des initiatives similaires avec Demos ou encore l'orchestre à l'école. Et justement, Glass Marcano n'a pas une technique classique aujourd'hui. C'est ce qui fait sa force et sa faiblesse aussi. Justement, elle vient d'intégrer le Conservatoire Régional de Paris pour parfaire sa technique. Mais elle est tout de même la première femme noire à diriger un orchestre en France. Son profil original, évidemment, séduit. Elle a quelque chose d'hypnotique quand vous la voyez. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des vidéos d'elle déjà. Elle a des sollicitations qui proviennent de partout. Elle est invitée en France à diriger plusieurs orchestres. Il y a quelques jours à Tours. Après-demain, donc, aux Victoires de la musique classique. Mais elle refuse la plupart de ses sollicitations pour le moment. Elle a la tête sur les épaules et elle veut terminer avant sa formation.
Merci beaucoup. Alors, sinon, on a envie vraiment de la connaître.
On va en entendre parler.
Patrick Besson, une réaction ?
Enfin, de bonnes nouvelles du Venezuela, quoi. C'est un pays qu'on présente d'habitude comme un non-pays. Et là, ça montre bien qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. Enfin, surtout la musique. Donc.
Oui.
On est d'accord. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment ?
En ce moment, c'est drôle que vous me posiez la question parce que j'ai racheté un compact de John Lennon.
D'accord.
Hier, sur les quais. Voilà. Legend, voilà, Legend.
Il n'y a que Patrick Besson pour employer le mot un compact. C'était un CD. Merci beaucoup, Laure d'Autriche.
À bientôt.
On va rester dans la musique. Dans un instant, on va parler de jeux vidéo avec notre deuxième indispensable. C'est Clément Lesaffre qui va nous parler d'un jeu vidéo qui fête ses 35 ans. Mais d'abord, plutôt, on continue en musique. C'est Tom Gregory.
Nothing much left to say. Cuts deep as if it was yesterday. I've been struggling on my own, 'cause your heart I call my home. Oh, oh, nothing much left to say. And now there's nothing else left to break. I'm down in the mud while you're moving on. No, I'd rather be you, I'd rather be you. Feeling nothing, nothing, yeah. I don't wanna feel this anymore. I know, I'd rather be you, I'd rather be you. Feeling nothing, nothing, yeah. Oh, 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 oh. I know, I'd rather
to break. Oh, I'm down in the mud while you're moving on. I know I'd rather be you, I'd rather be you. Feeling nothing, nothing yet. I don't wanna feel this anymore.
Rather Be You, c'était Tom Gregory sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Clément Le Saffre qui va fêter avec nous les 35 ans d'un jeu vidéo mythique.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Patrick Besson. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors on commence à avoir l'habitude avec vous de fêter les anniversaires de jeux vidéo mythiques, des héros de légende, et il y en a encore un aujourd'hui.
Oui, alors aujourd'hui plutôt hier, hein, mais c'est l'intention qui compte. Hein. Après tout, on souhaite donc un joyeux anniversaire à Zelda.
Bah hier on était dimanche.
Voilà, mais donc j'étais pas là malheureusement.
Donc on n'allait pas revenir non plus.
Absolument. Donc on en parle aujourd'hui, puisque donc Zelda, mythique franchise de jeux vidéo de Nintendo, fête ses 35 ans. Le tout premier jeu, il s'appelait The Legend of Zelda, est sorti le 21 février 1986 au Japon.
On hoche la tête tous les deux, Patrick Besson et moi, le son d'époque.
On est revenu bien en arrière. Hein. Ouais. C'est du 8 bits, hein. C'était tout simplement ça à l'époque. Et donc Zelda, c'était un jeu d'action dans le genre médiéval fantasy avec une histoire très classique, hein, un preux chevalier chargé de sauver le royaume d'Hyrule et sa princesse capturée par les forces du mal, une histoire universelle. À l'époque, c'était évidemment pixelisé à souhait, on voyait quasiment rien, on traversait des grottes et des donjons en vue du dessus avec un tout petit personnage, avec quand même une révolution. C'était le premier jeu où on pouvait sauvegarder sa partie. Avant, on était obligé de recommencer à chaque fois à zéro, bah là, au moins, on pouvait faire des étapes.
Et là, donc, c'est le début d'une grande histoire du jeu vidéo.
Oui, une histoire qui est quand même marquée par une grande confusion, puisque contrairement à ce que le titre laisse penser, Zelda n'est pas le héros du jeu. Zelda, c'est le prénom de la princesse qu'il faut sauver. Le héros, c'est Link, un petit chevalier blondinet reconnaissable à son chapeau vert de lutin. C'est un style un peu particulier quand même, ça n'impressionne pas beaucoup.
Robin des Bois.
Mais voilà, exactement, il a un petit côté Robin des Bois. Et c'est lui qu'on contrôle donc dans cette aventure ponctuée d'énigmes, de combats et de trésors à découvrir. Ah, les bruitages sont d'époque, hein, pareil, c'était vraiment Zelda, il y avait un gros travail autour du son, pour ça c'était assez cool, et le jeu est devenu instantanément culte, hein, d'abord pour ses personnages iconiques, on l'a dit, Link, et pourtant il ne parle pas, hein, il ne dit pas un mot, c'est comme Mario, mais il est tout de suite identifiable. Et puis il y a l'univers, hein, qui est très marquant avec ses forêts, ses plaines. C'était très reposant, très original à l'époque. Le créateur Shigeru Miyamoto, qui est aussi le papa de Mario, décidément quelqu'un de très inspiré, bah, il s'est inspiré justement des balades qu'il faisait enfant dans la campagne autour de Kyoto. Voilà, ça lui a donné envie de faire un jeu qui se passe dans la forêt. Et puis Zelda, c'est aussi un univers sonore, on l'a dit, très marquant. Il y a les bruitages, mais il y a surtout les musiques qui sont de vraies douceurs pour les oreilles. Tantôt épique, tantôt apaisante, avec quelques chefs-d'œuvre, hein, vraiment, comme la musique d'Ocarina of Time, un jeu sorti en 1998.
Vous faites marrer Patrick Besson avec votre chef-d'œuvre. Bah, je dis juste ça.
C'est vraiment, c'est des musiques qui étaient très travaillées. C'est le papa des musiques de Mario qui les a faites, lui. Voilà, donc The Legend of Zelda, c'est vraiment de grands jeux. Et Ocarina of Time, dont on vient de parler, est lui le jeu le mieux noté de l'histoire par les critiques. Il a 99 sur 100 sur les agrégateurs. Il faut dire que parmi la vingtaine d'épisodes de la saga sortis en 35 ans, il y a vraiment eu de très beaux jeux. Ocarina of Time, donc, mais aussi Link to the Past, Link's Awakening, The Wind Waker ou le dernier en date, Breath of the Wild, qui lui est sorti en 2017.
Et alors j'imagine que les jeux sont bien vendus. vues.
Ouais, c'est colossal, hein, vraiment. Hein. On estime que tous les jeux Zelda se sont vendus dans leur ensemble à 100 millions d'exemplaires environ. C'est bien la preuve que c'est une licence intergénérationnelle. Hein. L'histoire est classique, on l'a dit, mais elle est universelle. Donc en fait, tout le monde peut se l'approprier, tout le monde peut jouer à Zelda et s'y retrouver. Et c'est pour ça que c'est une franchise qui a beaucoup inspiré les rappeurs français, notamment. On peut citer Nekfeu, Vald et PNL.
Des écailles, tu dis chasse les lézards. J'ai pris terre comme ligne des Zelda, hey!
Fais à blanco comme Griselda, 80 autres et de dégâts. Plus de stuff que dans Zelda, plus de sphinx que de blé. Gros, c'est des rappeurs, la plus de Zelda, calme tes ardeurs pour rapper Zinda.
J'marche comme Link dans le monde des corons. J'attends rien des hommes à part chez nous.
Moi, j'suis dans la voie des Tyrules. Pierre sale, j'construis la casa.
C'est impressionnant ce montage.
Ouais, il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Il y a des rappeurs qui ont carrément fait des chansons uniquement sur Zelda parce qu'ils aiment beaucoup ça. Donc c'est une franchise, on comprend, qui est bien ancrée aujourd'hui dans la pop culture. Et c'est pas fini, hein, puisque Nintendo a deux nouveaux Zelda dans ses cartons. Le premier, c'est un remake de Skyward Sword, qui est un jeu qui est sorti en 2011, qui n'avait pas eu un grand succès, mais il sortira en remake en juillet, donc on va voir ce que ça donne. Et puis, sans doute l'an prochain, un jeu beaucoup plus attendu, Breath of the Wild 2, la suite d'un des plus grands jeux des dernières années.
Le son, ça a changé quand même. Hein.
Là, on est sur des compositions. Merci, voilà, c'est des orchestres aujourd'hui qui font la musique. C'est un peu autre chose que lui, Beats, effectivement.
Ouais. Vous êtes un gamer, Patrick Besson, ou sinon vous, vos enfants?
J'y ai joué une fois, oui. J'ai un jeu vidéo. C'était, il fallait faire du ski.
Ouais.
Il y a des jeux vidéo de ski.
Il y a différentes des planches, des skis, etc. Alors, moi, je faisais ça toute la nuit pour battre le score de mon fils cadet. Oscar, et lui, il récupérait toutes ses médailles en un quart d'heure le lendemain matin.
Et il avait quel âge ?
7 ans.
Et ça vous a dégoûté à vie ?
Non, je trouvais ça très rigolo, mais on ne peut pas tout faire non plus.
On ne peut pas être bon partout. Merci beaucoup, Clément Le Saffre.
Avec plaisir.
Dans un instant, suite et fin de Culture Média avec Patrick Besson. Et c'est ce qui, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Patrick Besson qui publie Niceville, son 81e livre, c'est chez Flammarion. C'était votre idée de faire une carrière telle que celle-ci?
J'avais pas vraiment d'idée. Non, au départ, plus jeune, je voulais pas du tout être écrivain. Je voulais être champion olympique de hockey sur glace. Puis j'ai jamais réussi à faire le virage canadien qui consiste à mettre les deux patins l'un derrière l'autre et à se pencher et ça tourne normalement. Et voilà, ça n'a pas tourné. Donc du coup, effectivement, j'ai été pris de passion aussi pour la lecture, et donc l'écriture, je pense. Le premier livre que j'ai lu, c'était une biographie de Tolstoï, auquel je n'ai pas compris grand-chose, sinon que la vie d'un écrivain, c'était bien.
Vous aviez quel âge ?
Je ne sais pas, j'avais 11 ans.
Vous écrivez page 54 dans Niceville. Le projet était de bien gagner ma vie en écrivant des livres personnels et qu'à la fin, ils disparaissent pour que je ne sois pas embêté après la mort. Mais ils ont disparu trop vite car je ne suis pas mort. Est-ce que vous regrettez certaines choses que vous avez écrites ?
Non, je ne sais pas comment expliquer ça, mais...
Comme vous le pensez.
C'est toujours un peu compliqué quand on écrit des livres, l'idée que des gens vont les lire après votre mort et en fait vont faire des études dessus. Ça arrive une fois sur mille, mais ça peut vous arriver. Quoi. Et donc, quand on aime bien contrôler les choses, on se sent tout d'un coup désarmé à l'idée qu'une fois, une fois disparu, les gens vont pouvoir écrire. Et...
Non mais vous écrivez en pensant à la postérité?
Tout le monde et personne pense à la postérité en écrivant.
Non mais vous-même, Patrick Besson.
Non, mais à partir du moment où les gens fabriquent quelque chose, ils pensent que ça va leur survivre. Oui. Pas seulement un livre, ça peut être une maison de famille, ça peut être une collection d'art, ça peut être n'importe quoi. Je pense vous posez la question de l'héritage, donc la question de la vie après la mort. Et ça touche tout le monde, pas seulement du tout les écrivains.
Et je voudrais parler de la vie avant la mort. Est-ce que parfois vous fâchez avec des
gens ? Y a-t-il une vie avant la mort ?
Non, mais est-ce que parfois vous fâchez avec des gens pour un bon mot que vous avez écrit ? Par exemple, moi j'ai éclaté de rire. Vous parlez d'un restaurant qui se trouve à Nice et vous écrivez ceci. J'ai dîné une fois avec Raoul, un ami à vous. J'ai dîné une fois avec Raoul et Sophie Duez. Sophie Duez, la comédienne. Raoul est rentré chez lui sous un prétexte absurde. En fait, c'était parce qu'il ne comprenait pas ce que disait Sophie. Moi non plus, je ne la comprenais pas, mais j'étais obligé de rester puisqu'il était parti.
Ouais, j'en ai voulu ce jour-là. En effet...
Non, non, mais elle vous en veut pas d'avoir écrit ça.
Non, mais ça m'est arrivé une autre fois à un déjeuner de chorégraphe à Monaco où j'étais là par hasard, où je savais que les gens parlaient français, je les entendais, c'était des mots français qu'ils disaient, et je comprenais pas du tout le sens. Et Sophie, qui est une femme absolument charmante, d'un bon niveau intellectuel, très gentille, quand elle parle, moi je comprends pas ce qu'elle dit, mais ça doit être de ma faute. Hein. Mais en tout cas, je l'ai vu qu'une fois, donc peut-être que si
vous
je l'avais
pas
vu,
répondu à ma question.
Si je l'avais vu plusieurs fois, j'aurais compris à la fin.
Est-ce que parfois vous fâchez avec les gens? Est-ce que parfois vous regrettez un bon mot? J'ai noté des scuds de vous. Je me souviens ce que vous avez écrit sur Solers une fois. Pardon, je rigole. Dans une auto-interview, écrivez-vous: Solers pose à sa façon originale les termes du problème. Est-ce que je sais quel Solers je suis? Suis-je le Solers de cette interview de Solers? Comment ça se passe quand vous croisez les gens ensuite?
Ah bah très bien, on prend des pots, enfin on prenait des pots à Closerie des Lilas quelques fois, non? Mais Philippe, il est capable d'apprécier l'humour sur sa personne comme doit le faire tout intellectuel. Sinon, la vie n'est pas possible.
Et les cinéastes, ils le prennent bien quand vous étiez critique de cinéma? Vous avez dit que vous ne le faisiez plus, mais quand vous étiez critique... Mais
j'étais beaucoup plus gentil avec les cinéastes que je l'ai pu l'être avec les écrivains, parce que je trouve que faire un film, c'est quand même plus difficile que un livre.
Le film Les âmes grises, j'avais noté ça, on s'ennuie ferme dans cette chronique lourde comme une choucroute. Le drame n'avance pas, il y a même des moments où il recule. Après, quand on croise le cinéaste, on doit être pas très très heureux.
Dans votre il est rare qu'on croise des cinéastes.
Bah si, c'est un tout petit milieu.
C'est un milieu plus grand que... Oui, mais les cinéastes ne sont pas vraiment à Saint-Germain-des-Prés, ils sont plutôt sur les Champs-Élysées.
Ouais, je suis d'accord avec vous, mais quand même, on les croise un petit peu. Et l'image que vous avez de l'édition...
Non, mais je n'ai jamais refusé de serrer la main de quelqu'un dont j'avais dit du mal dans un journal.
Juste un mot, dans votre dernière chronique, il faut que je retrouve, c'est dans Le Point. Vous parlez des gens, ça s'appelle les vaccinocrates, les gens qui sont très fiers, très heureux d'avoir été vaccinés et qui se sentent une sorte de supériorité. Vous-même, vous avez été vacciné ou pas?
Non, parce que je n'ai pas 75 ans. Le sens du texte, c'est qu'au fond, d'avoir 75 ans ou plus en ce moment, c'est d'une part ennuyeux, d'autre part, ça peut être tragique. Mmh. Et que tout d'un coup... Ces gens ont un privilège qui est de pouvoir se faire vacciner, alors que nous, dans notre immense majorité, on n'a pas encore cette possibilité. Donc je trouvais que c'est l'un des rares cadeaux que pouvait leur faire la vieillesse.
Et c'est très joliment écrit par vous. Vous écrivez ceci: comme le chevalier Bayard, ils n'ont peur de rien. Le vaccin est à la fois leur armure et leur épée. La vieillesse, en leur offrant le vaccin, les a rajeunis. Ils se voyaient sur le Titanic. Les voici à bord du TGV.
Voilà, ouais. J'ai plusieurs amis de plus de 75 ans et en effet, ils sont très contents de pouvoir s'être fait vacciner.
Et après le vaccin, vous allez pouvoir partir à Nice?
Oui, pas pour l'instant, je peux partir à Nice, sauf que le maire Poul de Nice me le déconseille.
Le maire Poul, c'est comme une mère Poul. Voilà.
Voilà.
On a bien compris. Monsieur Estrosi, merci beaucoup. Patrick Besson, ça s'appelle Niceville, il y a des réflexions très très profondes, des souvenirs, des choses incongrues. C'est du Besson. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler du retour de l'émission d'aventure Pékin Express, 14e saison hors normes. Nous serons avec son producteur depuis 2008. C'est intéressant d'entendre parler les producteurs, la manière dont ils conçoivent ces émissions. Thierry Guillaume et puis l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, qui s'est lancé dans un projet fou, raconter 8000 ans d'histoire humaine en 8 tomes. Il nous parle du premier de la série, ça s'appelle Paradis perdu. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff pour Ça fait du bien. Salut Patrick Besson, bonne journée sur
Merci.
Europe 1, à demain.
Au revoir.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.